Au quotidien, avec Hélène Denis.
Une autre belle journée, celle du mercredi 4 juin 2025. Beau et encore plus chaud. Alors, je ne sais pas si vous aimez la chaleur, mais si oui, vous allez être servi aujourd'hui. J'ai entendu un 35 avec Humidex. Oui. Alors, il faut bien s'hydrater. Et ben, comme plusieurs, j'imagine, je me suis réveillée ce matin avec la chanson « Une femme avec toi » de Nicole Croisé. Et je me suis dit « Oh non, j'espère qu'ils ne vont pas annoncer sa mort ». Et puis, oui, ils ont annoncé son décès à l'âge de 88 ans. Nicole Croisé qui a été emportée la nuit dernière par un cancer. Nicole Croisé, une voix riche, une voix ronde, comme dirait ma mère, généreuse, une voix bouleversante et une voix par-dessus tout, amoureuse.
Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leurs cigares. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'était que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontrée. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gaie comme un Italien quand il sait qu'il aura. Première fois, je me suis enfin sentie femme, une femme avec toi. Ressemblait un peu à ces terres d'avant où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour et pareil de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme. Et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gay comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue femme. Une femme,
nostalgie totale. Elle a bercé ma jeunesse et la jeunesse de bien des gens. Et je me souviens, la toute première fois que je l'ai vue et entendue chanter, elle avait chanté « Une femme avec toi » et c'était à l'émission « Appelez-moi Lise », animée par Lise Payette. Et elle avait offert une interprétation renversante. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue une fan instantanément, comme bien des Québécois, bien des Québécoises d'ailleurs. Et avant ça, il y avait eu, entre autres chansons, en 1966, le thème d'un homme et une femme. On connaissait la voix, mais sans nécessairement connaître le nom de la chanteuse. Un extrait.
Comme un chante tout babadabada.
Ah, Claude Lelouch doit avoir de la peine et c'est Pierre Barou qui accompagnait Nicole Croisé qui nous a donné plein d'autres chansons. On va en entendre au moins une autre avant la fin de l'émission et peut-être que Daniel Lachance va nous faire un spécial Nicole Croisé lors de sa toute dernière émission avant les vacances, n'est-ce pas Daniel?
Pourquoi pas? D'ailleurs, j'ai entre les mains actuellement le disque de la trame sonore du film Un homme et une femme.
Oui.
Et c'est écrit sur la bande transversale sur le disque vinyle. Nicole Croisé et Pierre Barou chantent Un homme et une femme. Donc, déjà là, elle commençait à faire son nom.
Oui.
Et ce matin, j'ai remarqué une chose. Si vous tapez seulement Nicole sur Google,
Nicole,
c'est Nicole Croisé qui apparaît.
Oui. Ah oui, hein?
Oui.
Oui, grande chanteuse, grande voix, et on vous rappelle que malheureusement, elle s'est éteinte à l'âge de 88 ans, la nuit dernière. On y reviendra certainement, et puis, salut Daniel, vous
oui,
avez
bonjour.
Déjà parlé, et aujourd'hui, non, vous n'allez pas nous parler de Nicole Croisé, parce que vous avez préparé votre chronique hier, quand même. Là.
Oui, oui, quand même, ce matin, j'ai pas vraiment eu temps suite à cette annonce-là, mais je vais quand même vous parler de quelqu'un qui est peut-être pas très connu du grand public, mais vous allez voir que il a fait des grandes choses, il a participé à plein de choses importantes. C'est M. Rick Derringer, un guitariste, auteur, compositeur, interprète, qui est décédé la semaine dernière.
Merci, Daniel. Serge est en studio.
Bonjour, bonjour.
Les théâtres d'été, vous allez nous faire rire, vous.
Oui, 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 avec un petit extrait qu'on va entendre là, de la comédie Le Sex Shop.
Par la troupe de Gilles Latulippe.
Oui. Et vous savez que les théâtres d'été existent depuis plus de 100 ans au Québec, hein?
100 ans.
Oui, oui, oui.
Sans se plaindre.
Sans se plaindre.
Et il y a aussi Isabelle Palardeau qui est là, qui va nous faire saliver.
Oui, bonjour. Donc, allô? On est dans les traditions du Québec de l'été, donc les théâtres d'été et les cantines. Alors, encore une fois, je vais faire un tour des meilleures cantines du Québec pour vous donner le goût de voyager et de manger.
Ah, merci. Annie Saint-Pierre sera avec nous, la réalisatrice de plusieurs courts-métrages, de documentaires, et elle va nous parler de son plus récent film, un documentaire intitulé « Le plein potentiel » qui prend l'affiche le 6 juin. Je l'ai vu et j'ai bien hâte d'en parler avec elle. C'est sur les coachs de vie. Un film qui est réalisé sans jugement, avec beaucoup de respect, beaucoup de lucidité. C'est à voir, absolument. On aura les par actualité et pour tout de suite, bien, qu'est-ce qu'on fait? On est rendu à la chronique d'Isabelle, mais on va prendre notre souffle avec une petite interlude musicale. Bon, comme les trois sont là, je parle de Serge, Isabelle et Daniel. Pas beaucoup de temps pour les unes, mais je vais quand même vous donner de l'information sur ce qui occupe l'actualité du jour à la une de la Presse Plus. Évidemment, acier et aluminium. Trump met sa menace à exécution. Les droits de douane passent de 25 % à 50 % sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada et d'autres pays. Cette nouvelle salve tarifaire pourrait être dévastatrice pour l'industrie canadienne. À la une du Journal de Montréal, enlisés à la frontière, plusieurs migrants foncent à travers les champs. Les autorités américaines tentent par tous les moyens de bloquer la route des passeurs de migrants venus du Québec qui ont traversé illégalement la frontière hors des sentiers battus à bord d'un véhicule par dizaines l'an dernier. Et puis à la une du journal du Devoir, on voit Gilbert Rozon. L'ex-premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, a témoigné mardi au procès de son ami Gilbert Rozon. Comme plusieurs avant lui, il a déclaré n'avoir jamais entendu ou vu le fondateur de Juste pour rire faire quelque chose d'inconvenant, ni en public ni en privé. François Flamand, un ancien cadre de Juste pour rire et l'auteur de séries télévisées à succès Guy Fournier, ont tous deux témoigné dans le même sens. Et puis... Oui, allez-y,
moi,
Serge.
C'est toujours un peu particulier ou délicat quand des témoignages de ce genre-là arrivent, parce que vas-tu aller commettre des gestes irréprochables devant des témoins? Mm-hmm. Moi, admettons, je suis kleptomane, je ferais jamais ça devant vous, là, tu sais. C'est ça, je suis toujours un peu... Quand je vois ça, ben oui, c'est... Quelqu'un peut être très, très correct, puis, tu sais, d'un autre côté, parce que les gestes ont été commis quand il était seul avec les autres personnes.
Oui.
Je crois, là, c'est...
Alors, je poursuis... En tant que journaliste, animatrice, j'essaie de rester objective malgré que je suis capable aussi de donner mes points de vue. Merci, Serge. Saint-Jean-sur-Richelieu, des aînés logés dans un CHSLD qui s'effrite. Les locataires y résident en attendant que soit construite une maison des aînés à moindre coût, un projet pilote avec le privé qui tarde à démarrer. Le CHSLD Georges Faneuf, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, est l'une des résidences les plus vétustes du réseau de la santé. Sur le côté du bâtiment, un passage avec toit a été aménagé pour empêcher que des morceaux de l'enveloppe extérieure ne tombent sur les piétons. Santé Québec assure que la sécurité des 126 résidents n'est aucunement compromise, mais l'immeuble vit assurément sur du temps emprunté, écrit Isabelle Porter, correspondante parlementaire à Québec. Je vais vous prendre deux choux moutardes avec une poutine puis un orange croche.
Avec plaisir. Ça va faire 25 $ s'il vous plaît.
Oh, ça a augmenté. Hein? Alors, Isabelle, 11 cantines à essayer absolument sur les routes du Québec.
Ben oui, un peu à chaque année. Il y a des articles comme ça qui sortent puis ça nous donne le goût de commencer à voyager. La plupart des cantines ne sont pas encore ouvertes, mais à partir de la mi-juin, fin juin, ça va être le cas. Et donc, c'est dans le coup de pouce que j'ai trouvé ça. C'est sous la plume de Véronique Claudic et Marie-Claude Viola. C'est paru le 29 mai 2025 sur le site web de coup de pouce. Alors, on nous parle donc de ces enseignes de la restauration rapide qui font souvent partie du paysage des villes et villages depuis de nombreuses années. Vous allez voir, là, il y en a. La première dont je vais vous parler, c'est depuis plus de 80 ans.
Oh,
donc,
oui.
Ça date pas d'hier. Alors, c'est ça. Évidemment, vous allez probablement reconnaître des noms de cantines dont j'ai déjà parlé dans d'autres chroniques, mais il y en a vraiment que j'ai découvert et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet article-là. La première, donc, c'est la roulotte Beauparlant à Shawinigan, en Mauricie. Donc, j'ai appris que Montréal et plusieurs villes du Québec ont interdit les roulottes à patates autour de 1947. Mais à Shawinigan, ça avait été conservé et c'est pour ça qu'on a ces roulottes à patates qui sont là depuis plus de 80 ans. Alors apparemment, pas une année n'a passé sans que les gens du coin puissent passer une commande à la fenêtre d'une des deux roulottes historiques de la ville, parce qu'il n'y a pas juste une roulotte Beauparlant, il y a deux roulottes. Ces roulottes-là étaient autrefois tirées par un cheval. Pardon. Et on peut acheter un ordre de frites dans un petit sac. Et... ce qui est vraiment intéressant, voyons, je vais me débarrasser de mon petit chat dans la gorge, ça sera pas long.
Vous avez un onion ring dans la gorge.
Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est qu'il y a deux roulottes et chacune offre une option différente. Alors, est-ce que vous êtes plus team drette ou team frisée, vous, Hélène?
Mais là, c'est quoi la question?
Parce que dans une des deux roulottes, on offre des patates frisées. Donc, j'imagine qu'elles sont un petit peu en spirale.
Oui.
Alors, elles sont ondulées, là, mais c'est ça. Soit elles sont frisées, soit elles sont droites, mais ici, on parle de drettes. Alors, voulez-vous des patates drettes ou des patates frisées? C'est ce qu'il faut savoir.
Je vais prendre une drette. Je vais prendre une drette pour commencer.
Moi, je vais essayer une petite frisée.
OK. On se fera goûter.
À... vous n'avez pas marché longtemps, vous pouvez essayer les deux parce que les deux sont sur la rue, la 5e rue de la Pointe, au 314 ou au 712. Donc, c'est une petite marche là, d'une roulotte à l'autre. Ensuite, on se transporte au centre du Québec, à Drummondville, avec une des patateries qui se réclame être le créateur de la poutine, donc le roi du flip. Apparemment, on ne saura jamais qui du lutin qui rit à Warwick ou du roi Giuseppe à Drummondville a réellement inventé la poutine. Mais sans aucun doute, le roi Giuseppe a été un des premiers endroits au Québec à servir ce mets très élaboré.
Le roi Giuseppe comme Jean Giuseppe? Comment ça s'écrit?
Le roi Giuseppe, donc comme du jus, J-U-C-E-P.
Ah, d'accord, comme Laurent Giuseppe.
Voilà. Giuseppe, oui, c'est ça. Et depuis les années 1960, donc on nous sert la poutine. Et en 1998, la cantine a enregistré auprès des autorités compétentes, je ne sais pas c'est quoi les autorités compétentes, mais la marque de commerce inventeur de la poutine.
Oui, il y en a beaucoup qui s'arrachent le titre.
Oui, c'est ça.
S'accapare le titre.
Évidemment, on ne saura jamais c'est quoi la vraie version, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut encore retrouver un décor rétro dans la cantine. Et à l'extérieur, on devine facilement les stationnements pour le service à l'auto d'autrefois, les fameux...
Drive-in.
Je ne sais pas s'ils venaient en tatin à roulettes, mais en tout cas, ça devait être très intéressant. On ne parle pas d'un service à l'auto où on passe à une petite fenêtre, là, mais plutôt qui servait vraiment à l'auto.
Alors, le roi Giuseppe, on écrit roi comme roi, comme à l'époque de la Nouvelle-France. Ouais, c'est à Drummondville.
Le roi, à Drummondville, sur le boulevard Saint-Joseph. Ensuite, il y a la cantine Bernard à Sainte-Madeleine, en Montérégie, donc un petit peu plus près de chez nous. Si jamais vous êtes au camping de Sainte-Madeleine, j'imagine que vous pouvez aller à la cantine Bernard. On nous parle de ses patates épluchées et coupées sur place et sa poutine que plusieurs, encore une fois, considèrent comme la meilleure de la région. Et c'est une cantine qui existe, elle aussi, depuis plus de 60 ans. Ensuite, si on va du côté de la... Encore en Montérégie, pardon, mais à Beauharnois, donc la patate mallette.
Ah oui, ça fait longtemps que je vais aller là.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que, bon, depuis 1956, c'est trois générations qui servent aux clients les spécialités de l'endroit. Ils ont toujours la même famille ou en tout cas la même lignée. Et apparemment, on peut commander, entre autres, le fameux pain put. Donc ça, c'est une poutine servie dans un pain à hot dog. Parfait pour manger une poutine pour emporter.
Patate pain.
Oui, un pain put. Alors moi, c'est ça qui me donne le goût. C'est sur la rue Saint-Laurent à
Beauharnois. Ah oui? Moi, ça me donne pas le goût, le pain put.
Si vous vous retrouvez sur la côte nord, le casse-croûte du pêcheur à Sept-Îles. Là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un immense casier à homard géant. Donc, vous mangez dans un casier à homard.
Wow.
Et évidemment, vous pouvez manger poutine, frites, burger, mais aussi des calmars frits, des accras ou des guédilles, puisqu'on est sur le bord de la mer.
Des guédilles homard. Des lobster rolls.
Et c'est dans la Naudière, l'Iris du fleuve à Saint-Sulpice. C'est la sixième cantine. Ça, c'est à peine 30 minutes de Montréal.
Au bord de l'eau?
Oui, la cantine propose les classiques, mais aussi des fish and chips, des clods sandwich, des guédilles. Et on peut les déguster sur des tables à pique-nique collées au fleuve, des belles tables à pique-nique mauves. Ensuite de ça, je vous en ai déjà parlé, chez Ben, on se bourre la bédaine avec la fameuse immense enseigne au néon à l'effigie d'un bonhomme qui déguste un hot dog.
Un classique.
Alors, un classique, donc, pour les frites, les rondelles d'oignon, les poutines, etc. Ça, c'est
êtes-vous déjà allée?
Je ne suis jamais allée, mais à chaque fois, à chaque année, j'ai envie
d'aller chez Ben la bédaine.
Vous êtes allée, Hélène?
Non, j'en ai entendu parler, mais je ne suis jamais allée. Chez Ben, on se bourre la bédaine. C'est vraiment comme ça là, que ça s'appelle.
Oui, exactement. C'est le nom de l'endroit. C'est de Bernard Ben Dubé, qui, à 19 ans, en 1950, avait ouvert sa roulotte à patates. Ensuite, à la Malbaie, donc on retourne à Charlevoix, chez Chantal.
On est allé chez Ben à Grenbey, puis on va chez Chantal à la Malbaie.
Oui, exactement. Et eux, ils ont aussi une célèbre guédille, mais aussi une poutine au homard. Ça doit vraiment être très bon. Oh. C'est sur la rue Duquet, à Charlevoix. Ici, on a à Hull, donc si on va plutôt à l'ouest, en Outaouais, la pataterie holloise. Elle peut faire aussi poutine, burger, sandwich, BLT, hot dog et des frites maison bien dorées et délicieuses. Apparemment, tout préparé avec des produits les plus locaux possibles. Et on peut pas la manquer avec sa façade bleue et jaune.
Alors, on va aller faire un tour à Gatineau.
Boulevard Saint-Joseph. Ouais, c'est ça. On dit que c'est la papeterie Oloise, mais depuis ce temps-là, ça a changé de nom.
Non, mais Ol existe toujours, mais dans la région de Gatineau.
Oui, l'arrondissement de Hull. Ensuite, on a le casse-croûte chez Micheline, dans la capitale nationale, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Et là, c'est là que vous pouvez déguster le fameux Interburger. Savez-vous c'est quoi un Interburger?
Un Interburger? Non.
Moi, je ne savais pas. Alors, c'est un cheeseburger contenant des rondelles d'oignon et du fromage en grain. Ça aussi, ça me tente. Moi, j'aime beaucoup l'innovation.
On a constaté ça.
Réinventer le fast-food. Et on termine avec la fameuse cantine côtière de la chef Colombe Saint-Pierre, qui apparemment vient de remporter les honneurs de la meilleure cantine au 7e gala des lauriers de la gastronomie québécoise.
Tout à fait. On la félicite
ça,
d'ailleurs.
À Saint-Fabien, au Bas-Saint-Laurent, bien sûr. Il y a aussi le restaurant de la chef, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, ben, la petite cantine côtière.
De léger, vous parlez du budget?
Ben oui, c'est ça. Ça sera peut-être pas léger sur le cœur et sur l'estomac, mais... C'est plus rapide.
Alors on prend la route des vacances puis on s'arrête dans les cantines pour savourer des bonnes choses qui sont bonnes pour dans la bouche, mais pas nécessairement pour la santé, mais tout est dans l'équilibre. Hein?
Exactement.
Pas exagérer.
De temps en temps, faut se gâter.
Bon appétit. Merci beaucoup. Serge, c'est à vous. Vous allez nous parler des théâtres d'été au Québec. Vous nous disiez tantôt que ça existe depuis 100 ans.
Plus de 100 ans.
Plus de 100 ans, en plus.
Oui, oui. Un article d'Yves Boudreau dans la revue Nostalgie. On découvre que les théâtres d'été existaient avant les années 1930, déjà. Et ils étaient évidemment moins nombreux qu'ils se concentraient principalement à Montréal et à Québec. La communauté anglophone du Québec a aussi participé au développement populaire des théâtres d'été, mais c'est à la fin des années 1940, et surtout en 50-60 que les théâtres d'été prennent de l'ampleur. Selon l'Encyclopédie canadienne, les théâtres d'été en français au Québec sont nés au début du 20e siècle. À Montréal, en 1904, un festival de théâtre en été avait été mis en place. Trois salles présentaient quatre pièces différentes. Quand même, il faut le faire.
Dans le cadre d'un festival.
Oui. À l'île d'Orléans, l'Hôtel Bel Air offrait une pièce en juillet. Et de 1936 à 1956, c'était autour du théâtre Bray Manor à Knowlton. Et en 1945, le comédien Pierre Dagenais monte « Songe d'une nuit d'été » de Shakespeare, qui s'est présenté à l'Ermitage à Montréal.
On était loin du théâtre d'été qu'on a connu dans les années 60-70.
Oui. Mm-hmm. En 1947, la troupe des Compagnons du Saint-Laurent présente deux Molières à Laval-sur-le-Lac.
Wow.
Donc, on essaie un peu de sortir des comédies...
Oui.
Légère, là, on peut dire.
Ouais. Ben, c'est ça, parce que ben, dans Molière, on rigole, c'est tout autre chose. Que faut placer pépère, genre.
Ce théâtre présenté en été n'a par contre rien à voir avec l'éclosion de ce que sont les théâtres d'été un peu partout au Québec. Le tout a commencé au théâtre de Sun Valley en 1953, fondé par Henri Norbert. Et un peu plus tard, en 1956, le comédien Paul Hébert ouvre le théâtre Chanteclerc de Sainte-Adèle avec la pièce « La mégère apprivoisée », encore du Shakespeare.
Ah oui.
Et Paul Hébert s'était donné comme mission de démocratiser le théâtre un peu partout au Québec. Il ouvrira deux autres théâtres, soit l'Estérel à Sainte-Marguerite en 1961 et le théâtre Paul Hébert à l'île d'Orléans en 1982. Et en 1957, on présentait aussi du théâtre d'été en Gaspésie, soit au Centre d'art de Percé. On dit que le tout premier véritable théâtre d'été où on présentait des comédies dans un lieu conçu uniquement pour le théâtre en été fut le théâtre La Fenière, qui pouvait accueillir...
La Fenière,
qui pouvait accueillir 180 spectateurs dans une grange.
Oui, il y a eu beaucoup de terres d'été dans les granges.
Oui, aménagé pour la circonstance. Et de 58 à 62, la Fenière connut un succès sans précédent. Et victime de son propre succès, il a dû déménager dans un endroit plus grand. Et les producteurs firent l'acquisition d'une autre grange, celle-là située à l'ancienne Lorette, qui datait de 1858. Et rénovée, elle pouvait accueillir 400 spectateurs, donc on a un peu plus que doublé. Et toujours bien vivant, La Fenière évolue maintenant sous la bannière La Fenière Compagnie Théâtrale. Et depuis 2 ans, elle produisait des pièces, avant la pandémie, jusqu'à la pandémie, elle produisait des pièces différentes dans différents lieux. Malheureusement, à l'été 2020, elle a dû suspendre évidemment ses activités.
Est-ce qu'elle les a repris?
Ils reprennent La Fenière, oui. Est-ce qu'on peut entendre tout de suite le petit extrait ou si on attend plus tard?
On a le temps.
Oui, OK, allez-y donc.
Bonjour, ici Gilles Latulippe. L'idée de la pièce, c'est qu'il y a un bonhomme qui est parti au chevet d'une vieille tante malade et même il a assisté à ses funérailles. Et le temps qu'il est parti, il y a son fils qui prend soin du commerce. Et ce commerce-là, quand il est parti, c'était un pet shop. Et durant son séjour là-bas, le fils et moi avons changé son commerce en sex shop. Alors, le bonhomme ne le sait pas, et quand il revient, ben la surprise est là.
On a rajouté une couple de nouvelles lignes à votre commerce.
Vous avez rentré le moineau!
OK, c'est plus que ça.
Ça rit dans la salle. Hein?
C'est ça, ben, ouais. C'est ça. C'était le théâtre d'été.
Oui, avec Gilles Latulippe sa gang. Ouais.
On peut dire aujourd'hui que le théâtre de la Marjolaine à Eastman, fondé en 1960 par la comédienne Marjolaine Hébert et un groupe d'amis, dont Hubert Loisel et Louise Rémy, est toujours bien vivant. Il devait fêter l'été dernier, c'est-à-dire l'été qui s'en vient, il va fêter ses 65 ans d'existence.
Cette année, en 2025?
Oui, 2025, oui. C'est assez... Il faut le souligner. C'est un beau succès.
Mais je pense que c'est Marc-André Coilier qui
a pris
la relève.
Oui, exactement, depuis 2003.
Ouais.
Oui. Alors, la Marjolaine s'est presque toujours démarquée des autres théâtres d'été en présentant des comédies musicales. D'ailleurs, le théâtre présentait et présente toujours des spectacles de chant dans une salle adjacente, le Chat Gris. Savez-vous combien coûtait un billet de théâtre en 3,50 je vais te donner l'argent.
En 3,50
en 1960.
Il coûtait 1960.
Oui, elle coûtait 3,50 en 1960.
Ah, ça a augmenté. Oui. Puis il y a peut-être moins de théâtre d'été, mais maintenant, on parle plus de théâtre en été.
Oui.
Est-ce que vous avez d'autres choses à dire
là-dessus? Mais peut-être deux minutes peut-être après
d'accord,
ça.
D'accord, deux minutes au retour de la pause.
Oui, d'accord.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et avec toute l'équipe, Serge, qui nous parle de théâtre d'été ce matin.
Oui. Alors, toujours avec la Marjolaine, de 1960 à 1963, on pouvait présenter 4 productions différentes par été. C'était beaucoup, en 4 productions.
Je comprends, ça marchait à fond la caisse.
Ben oui. Et la boîte à chansons, l'ardoise, sur la butte a changé de nom pour le Chat Gris, où tous les chansonniers de l'époque ont donné des spectacles. Et malheureusement, ben c'est ça, il ne reste plus beaucoup de théâtre d'été.
Mais là, je vous arrête parce que la boîte à chansons semble avoir changé de nom. Je suis allée faire un tour sur le site de la Marjolaine et c'est le Piano Rouge.
Ah, ils ont enlevé ça, le Chat Gris. Ah, mais coudonc.
Le Piano Rouge. Après le Chat Gris, le Piano Rouge. Coudonc. Et on présente une pièce qui ne semble pas être une comédie musicale. C'est « Peut contenir des traces d'égo » avec une super distribution cet été. Geneviève Brouillette, Catherine Proulomé, Valérie Blais, Catherine Paquin, Béchard, Ève Presseau et Joël Langteau du 19 juin. 12 juillet,
mais je pense qu'ils
au théâtre La Marjolaine.
Oui, ils alternent. Ils ne font pas toujours des comédies musicales, mais ça reste leur marque de commerce. Alors, donc, aujourd'hui, les théâtres d'été se font de plus en plus rares. On va surtout dans des salles conventionnelles, comme le Théâtre du Vieux-Terrebonne, le Centre culturel de Drummondville. Et vous avez même à Montréal, le Théâtre du Nouveau Monde, par exemple, présente des pièces durant l'été. Et le Festival Juste pour rire présente des comédies pendant l'été également, à Bromont. Et plusieurs petits théâtres d'été, malheureusement, mais c'est ça, sont disparus. Alors, quelques petites anecdotes sur la Marjolaine qui sont amusantes. C'est Marc-André Coilier qui est propriétaire depuis 2003. Aujourd'hui, on peut encore voir le piano de Claude Léveillé, qui a signé la première comédie musicale québécoise, « Doutant des amours ». Et en 1969, Marjolaine Hébert fit le pari de délaisser la tradition musicale au profit d'une pièce traditionnelle, « Hold Up ». Malheureusement, la pièce fut renommée par les critiques « Old Flop.
Oh!
Pas gentil.
Mais c'est quand même un drôle de jeu de mots.
Oui. Dès l'année suivante, une nouvelle comédie musicale prend l'affiche à Eastman. Et en 1976, ça, je me rappelle un peu là, que ça avait brassé, l'auteur Michel Tremblay a revisité « Les héros de mon enfance » des contes de Perrault.
Ouais.
Et la version pour adultes de ces contes n'a pas plu à tout le monde et a causé un mini-scandale dans le milieu théâtral. Je me souviens pas trop tôt de ce que c'était s'il avait fait ça un peu plus... version pour adultes.
Il
n'y
a pas plus
adultes,
de détails dans, non, c'est dans les explications de Coily.
Oui. Et compte en commun, Louise Portal et Dorothy Berryman, ben, toutes les deux...
Elles ont joué dans le déclin de l'Empire américain.
Oui, mais toutes les deux jouent au théâtre tout en se produisant après le spectacle à la boîte à chansons.
Ah oui, ben oui, elles chantent ces deux-là. Oui. Du jazz pour Dorothy, puis du pop un peu plus pour Louise Portal.
Et il y a deux comédiens dont les fils ont suivi leurs traces et ont joué à la Marjolaine. Marc Labrèche et Antoine Durand.
Oui,
je me rappelle.
Marc Labrèche, son père, c'est Gaëtan Labrèche.
Gaëtan Labrèche,
Durand, Antoine. Antoine Durand, son père, c'était Luc Durand.
Oui. Je me rappelle, moi,
Gobelet,
avoir vu...
Gobelet, dans Sol et Gobelet.
Oui. Moi, je me rappelle avoir vu où Gaëtan Labrèche s'est joué avec Marc, son père, son fils, c'est-à-dire. Et dans le spectacle, à un moment donné, comme ça, du théâtre d'été, il rajoutait des punchs, tu sais.
Ah oui, donné, toujours de l'improvisation.
Oui, Gaëtan Labrèche, à un moment donné, il regardait Marc Labrèche, il disait, il me semble qu'il a un air de famille, lui, hein?
Oh, vous avez presque sa voix.
Oui.
Oui.
Gaëtan.
Je l'ai entendu un peu.
Oui.
Ah oui.
Ah, c'est cela.
Ah, ben voilà, c'était super, ça. Mm-hmm. C'était dans la revue Nostalgie.
Oui, oui.
Numéro
de? En 2025, ils ne mettent jamais les numéros.
Ah non, vous cherchez toujours le mois.
Oui, ben.
Mais c'est l'année. C'est 2025. Mm-hmm. C'est quand même assez récent. C'est cette année, ça.
Oui, oui.
Mm-hmm. Merci. On y va avec la chronique de Daniel Lachance. Mais d'abord, une chanson de l'artiste dont il va nous parler. Je dirais que j'entendais Lucien Francoeur dans « Hey, you woman », Daniel.
Ben oui, j'en avais parlé justement quand j'avais fait la chronique sur Lucien Francoeur.
Ah, je me souviens pas.
Oui, je disais que...
Mais c'est évident.
« Hey, you woman », c'était une reprise. c'est un chanteur français dont le nom m'échappe ce matin, là, mais lui-même s'est inspiré de cette chanson-là.
Bon, tout le monde s'inspire. Donc,
oui, ben oui. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'était la voix de M. Rick Derringer, qui faisait à l'époque partie du groupe The McCoys. La chanson, c'était Hang On Sloopy.
Hey You Woman, et Michel Polnareff à l'origine.
Michel Polnareff, c'est ce que je cherchais. Donc, oui, on voit qu'il avait été fortement inspiré par cette chanson-là qui était sortie en 1965. D'ailleurs, ça sonne 1965, hein, ça ne sonne pas 2000 quelques.
Hang On Sloopy, 1965?
Oui.
OK.
Et je vais vous en parler un peu plus tard, cette chanson-là. Je vais commencer par vous parler de M. Rick Derringer, justement, de son nom véritable, Richard Dean Zehringer, qui commençait par un Z, Z-E-H-R-I-N-G-E-R, était né à Celina, en Ohio, le 5 août 1947, et décédé la semaine dernière, le 26 mai, à l'âge de 77 ans. C'est un auteur, compositeur, interprète et guitariste et chanteur de blues et de rock américain. Ça ne faisait pas très blues ce qu'on vient d'entendre là, mais bon, sa carrière a bifurqué un peu à un moment donné. Il a eu sa première guitare en cadeau à son 9e anniversaire. Dans le fond, ses parents lui ont donné ça. Et il a commencé rapidement à développer ce talent. Je ne sais pas à quel âge exactement, mais très jeune, il avait déjà formé son premier groupe qu'il a appelé The McCoys, ceux qu'on a entendus tantôt. Ensuite, il a changé le nom du groupe pour Rick Z, donc Rick Z pour Zehringer. Il est revenu au nom McCoys après. Je n'ai jamais compris pourquoi il avait pris le nom McCoys. Il me semble que pour moi, McCoys, ça sonnait comme les batailles entre les familles, les Hatfield, les McCoys à l'époque, là, des grandes carabines. En tout cas, je ne sais pas si c'est inspiré d'un film comme ça, mais bon. Et à l'été 1965, l'été où il a eu 18 ans, mais juste un peu avant d'avoir ses 18 ans, son groupe a été embauché par un autre groupe qui s'appelait les Strange Loves, dont je n'ai jamais entendu parler, mais ils ont été engagés pour faire la première partie pendant les spectacles de Strange Love. Et ce groupe-là était aussi des producteurs de disques. Et à un moment donné, ils cherchaient un groupe pour enregistrer une nouvelle chanson qu'ils avaient faite. Je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas la faire eux-mêmes, mais ils l'ont offert aux McCoys. Et cette chanson-là s'appelait « My Girl Sloopy ». Et là, Rick Derringer a accepté de chanter ça avec son groupe, mais il a décidé de changer le titre pour « Hang On Sloopy » au lieu de « My Girl ». Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que « My Girl », ça faisait
trop. Alors, il y a plein de choses que vous ne savez pas ce matin.
Non, mais il y a des trous dans cette histoire-là.
Mais on ne souligne pas, on continue.
Oui, mais je pense que c'est parce qu'à l'époque, il y avait une chanson qui était très populaire qui s'appelait « My Girl », tout simplement. Aussi.
Oui, peut-être.
Et probablement aussi, peut-être, parce que ça sonne mieux « Hang On Sloopy » quand on le chante.
Bon. Oui, des fois, c'est juste tout simplement ça, parce que ça sonne mieux.
Absolument. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est le groupe Strange Love, quand même, qui ont enregistré les instruments, ils ont fait la musique. Et Rick Derringer est venu chanter, tout simplement. Il a fait la voix principale. Les autres ont fait les voix à back. Donc, ils ont sorti le disque sous le nom de McCoys, mais en fait, c'est un ensemble de deux groupes. Et cette chanson-là, c'est un drôle de hasard, mais elle est restée quand même numéro un pendant plusieurs semaines. Alors que les Strange Love, je ne sais pas s'ils ont déjà eu un numéro un. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'eux autres.
Strange Love, moi, je connais la chanson de Depeche Mode, là, mais pas le
groupe. Oui, non, c'est bien avant ça. Donc, ça n'a pas de rapport d'après moi. Mais de toute façon, on voit que souvent, c'est des hasards comme ça. C'est ce qui a lancé la carrière de Rick Derringer. Et par la suite, Rick et son frère Randy, qui était le batteur du groupe, ont commencé à jouer avec Johnny Winter, qui est pas mal plus connu à l'époque. Et Johnny Winter, à ce moment-là, a parti son groupe qui s'appelait Johnny Winter And, A-N-D. Puis je me souviens, à l'époque, avoir trouvé ça, puis je me disais « And ». Avec, ça veut dire « et », avec qui, je comprenais pas.
Il y avait-tu des points de suspension?
Non, c'était juste « and ». Puis on a compris plus tard que le groupe s'appelait « and », tout simplement. C'était assez spécial. Et donc, il a enregistré un premier album qui s'appelait « Johnny Winter And » en 1970. Et par la suite, ils ont fait une tournée, bien entendu, pour la promotion de l'album. Et ils ont lancé un album en concert qui s'appelait « Live Johnny Winter And ». Qui est sorti en 1971 et on va en écouter des extraits.
I was born in a crossfire hurricane. And I
Hey, Daniel, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On entendait les Rolling Stones au début.
Oui, c'est ce qui est assez surprenant, c'est que cet album-là a vraiment marché beaucoup. Et pourtant, c'était un album de reprise. C'est toutes des chansons qu'on connaissait déjà. Mm-hmm. Il y avait là-dessus Jumping Jack Flash des Rolling Stones, Johnny B. Goode de Chuck Berry et Good Morning Little School Girl. Je ne me souviens pas c'est qui. Il y a tellement de bluesmen qui l'ont fait celle-là. On ne sait plus trop qui l'a écrite. Là. Mais bon, c'était quand même un album qui a marché énormément à cette époque-là. Et on s'entend que c'est très différent de ce que Rick Derringer faisait avec les McCoys.
Mais là, on entendait sa voix et sa guitare?
Non, c'était la voix de Johnny Winter.
Ah oui, c'est vrai, vous l'avez dit tantôt.
Il y avait deux guitares et ça a vraiment lancé sa carrière de guitariste là, parce que sur cet album-là, on voyait que les deux guitaristes étaient très solides et ça a marché vraiment beaucoup. Moi, je me souviens que c'est un des premiers albums, je pense peut-être le premier aussi, qui m'a fait connaître Johnny Winter. Et ça l'a rendu très populaire. Et suite à ça, Johnny Winter a quand même eu des problèmes de santé. Il a dû se retirer un bout de temps. Et ça, là, c'est un petit peu un hasard aussi, mais c'est un heureux hasard. À ce moment-là, Rick Derringer a rejoint le groupe Edgar Winter Group, qui était Edgar, qui était le frère de Johnny Winter, donc ça reste dans la famille. Et ils ont sorti un album en 1972 qui s'appelait « They Only Come Out at Night ». Et à ce moment-là, Rick est devenu un peu le producteur aussi. Il a produit l'album, il a joué de la guitare et de la basse sur cet album-là. Et il y a deux chansons de cet album-là qui ont marché beaucoup aussi. Une surtout, un instrumental. C'est rare qu'un instrumental marche beaucoup à la radio, surtout dans le rock. Mais celle-là, vous allez probablement la reconnaître. Je pense que tout le monde a déjà entendu. On va écouter l'extrait.
Ça.
Oui, et ça, ça a vraiment marché beaucoup aussi, cet album-là. Et ça, celui-là était sorti en 1972.
L'instrumental ne me disait absolument rien.
Ah non, pourtant, ça a joué vraiment beaucoup, ça. Peut-être que cet instrumental-là, il y a plusieurs parties aussi. Il y a des bouts peut-être qu'on connaît
ah,
plus.
Ah, ça se peut. Est-ce que ça a été utilisé dans les bandes originales de films ou...
Je pense que oui. Moi, je l'ai entendu à tellement d'endroits que j'ai l'impression que tout le monde la connaît, là, mais oui, je pense que...
Rappelez-nous le titre, Daniel.
La chanson, l'instrumental, c'est Frankenstein. Tout
Frankenstein, OK.
Oui, oui. Okay.
Ça a connu un succès monstre.
Un succès monstre, absolument. Alors, suite à ça, Johnny Winter est revenu. Donc, Rick Derringer a continué un petit peu à jouer avec lui, a joué sur son album « Still Alive and Well ». Et ensuite, il a parti son album solo. Il a lancé un premier album solo qui s'intitulait « All American Boy ». Et sur cet album-là, il y a une chanson qui a marché beaucoup. Et celle-là, je voulais garder
pour la fin.
Pour fermer la chronique, parce que c'est probablement celle qui est la plus connue de Rick Derringer. C'est « Rock'n'Roll Ochiku ». Et cette chanson-là, quand il l'a lancée, elle était déjà connue aussi parce qu'il l'avait déjà jouée avec Johnny Winter. Il était sur le premier album Johnny Winter and.
Johnny Winter, c'est cet artiste avec les cheveux longs blancs. Là.
Oui, c'est un albinos.
Oui, oui. Puis je pense qu'il y avait une déficience visuelle également.
Oui, déficience visuelle, je pense que c'est un trait caractéristique. Mais en tout cas, ça arrive souvent chez les albinos. Mm-hmm. Il y avait les yeux rouges et je pense que c'est ça, il y avait une vue assez faible.
Oui, t'es assez spectaculaire sur une scène.
Très spectaculaire. Je me souviens, quand j'étais jeune, les premières fois que je l'ai vu, je trouvais qu'il faisait peur un peu même. Là. Les cheveux très longs, blancs, habillés en noir. Souvent, il y avait un chapeau haut de forme. C'était comme, wow!
Un personnage un peu mystérieux, intrigant.
Oui, intrigant. Ouais. Mais par contre, quand on le voyait jouer, il avait l'air d'avoir tellement de plaisir à jouer que là, il faisait moins peur.
C'était communicatif.
Oui, il y avait vraiment un plaisir communicatif à jouer. Cette chanson-là dont je vous parlais, Rock'n'Roll Uchiku, ça a marché beaucoup. Mais je pense que ça a été vraiment son seul vrai gros hit, à part celui qu'il avait fait avec le groupe de McCoys. Et suite à ça, il a joué avec plein d'autres personnes. On l'a perdu de vue un peu parce qu'il était un peu en retrait, mais il était quand même très actif. Dans les années 80, il a joué de la guitare et de la mandoline sur 5 albums de Weird Al Yankovic. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non.
Celui qui faisait des parodies de chansons.
Oui.
Des parodies de chansons de Michael Jackson, de plein de monde. Donc,
Isabelle, ça vous dit quelque chose?
Oui, moi, j'ai entendu plusieurs chansons de Weird Al. Ses vidéos étaient très rigolotes aussi.
Oui, puis c'était vraiment, c'est à l'époque justement de MTV, Much Music, tout ça. Donc, Rick Derringer a travaillé sur plusieurs de ces albums-là. Ensuite, il a travaillé avec Cyndi Lauper. Il a joué sur 2 chansons de l'album True Colors. Et il a fait de la tournée avec elle. Donc, il était très occupé pendant cette période-là aussi.
Mais oui, 2005, elle a connu, c'est fou, elle.
Oui. Puis pendant de 86 à 92, donc à environ pendant 6-7 ans, il faisait des tournées avec elle. Et à partir de 2001, il a changé un peu de trajectoire. Là, j'avais un peu perdu de vue. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans sa vie. Mais là, à partir de 2001, il a produit 4 albums de musique chrétienne avec sa femme et ses 2 enfants.
Ah bon, tout un revirement.
Donc là, il s'adressait un peu à un autre public. Là.
Oui, le Jesus public.
Oui, donc il est peut-être très connu dans ce public-là. Il a peut-être marché beaucoup dans ce public-là, mais on l'a perdu de vue un peu sur la scène.
Avez-vous entendu des chansons qui faisaient partie de ces 4 albums-là?
Non, pas du tout. J'ai pas trouvé rien de ces albums-là. Probablement qu'il y a peut-être des choses très intéressantes aussi. J'avais peut-être moins d'intérêt.
Du gospel.
J'ai pas cherché beaucoup, mettons. Ensuite, en 2002, il a produit, ça c'était quand même assez intéressant, il a produit un album qui s'appelle Free Ride Smooth Jazz, avec sa femme aussi, mais c'était des reprises de la plupart instrumentales. Sa femme chantait quelques trucs là-dessus, mais il y avait beaucoup d'instrumentales. Il faisait des reprises de chansons qu'il a déjà faites avec d'autres, et il a fait une version jazz de Rock'n'Roll Uchiku. Il y avait quand même des choses assez intéressantes là-dessus. On voyait qu'il voulait jouer sur plusieurs tableaux.
Bien oui.
Et parlant d'un peu de jazz, vous connaissez le groupe Steely Dan?
Bien oui.
Bon, il ne savait pas ça. Il a joué sur plusieurs chansons de Steely Dan aussi, qui est complètement différent de Johnny Winter et tout ce qu'il avait fait avant. On va écouter quelques extraits.
Oui, on entend sa guitare. Il était réputé là, comme un excellent guitariste dans le milieu.
C'était un excellent guitariste. Il était très en demande. Et à partir de 2010, il a fait la tournée aussi avec le Ringo Starr, son All-Star Band.
Oui.
Donc, je pense qu'il était très respecté dans le milieu. Il avait une très, très bonne réputation de guitariste, auteur-compositeur, tout ça. On ne l'a pas connu autant comme chanteur, à part quelques chansons comme Rock'n'Roll ou Chico, tout ça. C'est pas
on reconnaît sa musique, on est capable d'associer, c'est-à-dire de reconnaître les succès, mais ce nom-là ne nous vient pas nécessairement à l'esprit, là.
Absolument. C'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine d'en parler un peu, parce que je suis certain qu'il y a plein de monde qui ont vu cette nouvelle-là passer. Rick Derringer est décédé
à 77 ans. Mais on va se laisser avec la chanson.
Oui,
il y a des drôles de titres quand même. Hein? On a commencé avec Hang On Sloopy, puis on va finir avec Rock'n'Roll
Uchiku, qui était son plus grand succès.
Rock and roll, Uchiku. Quelle année, ça, Daniel?
C'était, oh mon Dieu, je l'ai vu tantôt. J'ai
question, je voulais pas que ça soit une question piège.
C'est parce qu'elle a été, publiée plusieurs fois. Elle a été publiée sur l'album de Johnny Winter Hand. Elle a été publiée sur l'album de Edgar Winter. Elle a été publiée sur l'album de c'était des versions différentes, par
exemple. En tout cas, elle est sortie en 1973.
73, ouais. Hein, ça, dans ces années-là, mais elle a été publiée au moins trois fois.
Merci beaucoup, Daniel Lachance, de nous avoir fait connaître cet artiste qui nous a quittés, malheureusement, le 26 mai dernier. On va se retrouver quelque part en juin. Merci aussi, Serge Bradet. Et merci à Isabelle Falardeau qui nous a donné envie d'aller se promener à travers le Québec puis manger des bonnes choses.
De la poutine.
À bientôt.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
La voix splendide de Nicole Croisé qui vient de nous quitter à l'âge de 88 ans. Et là-dessus, je dis bonjour à Annie Saint-Pierre, réalisatrice du documentaire Le plein potentiel, son plus récent film qui prend l'affiche bientôt, le 6 juin prochain, dans plusieurs salles à Montréal, Québec et Sherbrooke. Bonjour Annie.
Bonjour.
Alors, avant de poursuivre la conversation qui n'est pas nécessairement entamée, on va écouter la bande-annonce de votre film.
Si tu tombes sur cette capsule, à cet instant précis, c'est peut-être que tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire.
Je t'invite à fermer les yeux. Prends le temps de déposer, d'apprécier ce que tu ressens.
Plus tu vas te focaliser sur cette vision, plus tu vas la vivre.
tout se mettra en place.
Quel est le sens de ton action en coaching? À quel monde souhaites-tu contribuer?
J'aimerais contribuer à un monde meilleur, où les gens s'acceptent tels qu'ils sont et utilisent leur plein potentiel.
La bande-annonce du film Le plein potentiel, un film que j'ai eu la chance de regarder, film fascinant, exaspérant et touchant. Et vous, Annie Saint-Pierre, comment vous présentez votre documentaire?
Oh, bonne question. Je dirais que c'est une vraie expérience dans le monde du coaching, avec un accès intime, privilégié dans des sessions de coaching. Puis je dirais que c'est un miroir de nous, de notre société, de nos peurs et de nos quêtes et de notre psyché très influencée par le système capitaliste, néolibéralisme et l'individualisme du 21e siècle. C'est correct, ça?
Très bien, c'est plus que correct. Mais quelle était l'idée, l'objectif de la création de ce film?
Ben, l'objectif, je pense que je voyais cette industrie depuis plusieurs années. Là. Moi, ça a toujours fait partie de ma vie, dans ma famille. Là. Mes parents aimaient la croissance personnelle. Puis là, je voyais se développer de plus en plus l'industrie du coaching. Puis son langage aussi, pénétrer le langage commun, le langage de tous les jours. On entend ça souvent, le plein potentiel, la meilleure version de toi-même.
Se déposer.
Ouais, tout ça, là, tu sais, on l'entend vraiment beaucoup.
Ouais.
Puis ça me fascinait, je me disais, ah, tu sais, c'est on est vraiment devenu obsédé par l'auto-optimisation.
Oui, c'est un mot que je ne connaissais pas, que j'ai appris grâce à votre film, parce qu'en ouverture, on a une citation de Byung-Chul Han, « L'obsession de l'auto-optimisation fait de nous des travailleurs perpétuels de notre propre moi. » Alors, l'auto-optimisation, ça veut dire quoi? On veut toujours s'améliorer? On veut toujours faire plus?
Oui. Oui, puis ça devient comme une obsession, être meilleur, être bien, tu sais, être dans le bonheur, puis tirer le meilleur de ce qu'on pourrait de la vie. Mais bon, tu sais, quand on prend un pas de recul, on le sait là qu'on a plus de contrôle sur la vie, que la souffrance fait partie de la vie, qu'il va toujours y avoir des moments moins fun que d'autres. Puis on se rend compte en voyant le film que ben, tu sais, il y a quand même beaucoup de souffrance autour de ça, parce qu'on est seul, parce que notre société est faite de beaucoup d'individualisme, qu'on a un peu perdu la façon collective de passer à travers tout ça, et que ben c'est là qu'arrivent les coachs, c'est là que se développe cette industrie pour pallier à un manque qu'il y a dans la société. Et donc, moi, j'avais envie de le regarder avec ce pas de recul-là pour qu'on voit dans le micro qu'est-ce que ça fait à l'individu, mais dans le macro, qu'est-ce que ça donne aussi comme portrait de notre société.
Et c'est un regard qui ne porte pas de jugement. C'est ce qu'on entend beaucoup, là, parce que déjà, les critiques, les journalistes ont commencé à parler de votre film. Comment vous vouliez aborder la chose? Parce que, justement, il y a du respect, il y a de la lucidité, même si, quelquefois, j'imagine que vous avez été heurté par certaines propositions. Vous rencontrez quand même plusieurs coachs de vie, plusieurs manières d'aborder le plein potentiel ou de donner envie aux gens qui rencontrent ces coachs de vie-là d'aller toujours un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus loin.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, on nomme ça beaucoup que c'est un film sans jugement. C'est sans jugement, mais moi, je dirais qu'il y a quand même un regard critique dans le sens où la structure du film expose les dérives possibles de l'industrie en créant des tensions. C'est un film où il n'y a pas d'expert, il n'y a pas de narration. L'idée, c'était pas de que des gens nous disent quoi penser, mais qu'on expérimente nous-mêmes des émotions, des malaises, de l'inspiration, une gamme d'émotions vraiment diverses d'une scène à l'autre, mais dans la musique, dans le choix de cadre, dans le montage, on sent quand il y a des tensions, on sent quand je dis comme ouh, et là, tu sais, ça dit quelque chose quand même sur nous où il faudrait porter attention.
Oui.
Et, mais le jugement, je sais pas, je trouve ça pas intéressant. Je pense que c'est juste pas ma façon de regarder le monde. Je pense que quand quelque chose me surprend, j'ai envie de comprendre, de m'approcher. Mais être pour ou contre, je trouve toujours ça très stérile. Tu sais, je trouve qu'on est plus complexe que ça. Surtout quand on veut comprendre l'être humain, je pense qu'être pour ou contre, c'est vain, là. Tu sais, il faut juste s'approcher, puis questionner, puis...
Et faire confiance aussi aux spectateurs.
Oui, bien ça, c'est sûr que c'est au cœur de ma démarche. Là. Je pense qu'on sous-estime la capacité du spectateur à être surpris puis à aimer ça. C'est, les gens, ils vont voir de l'art, mais l'art, ça sert à surprendre, à provoquer, à créer quelque chose qui fait qu'on ne regardera pas le monde exactement de la même façon après. Sinon, c'est du divertissement, puis il y en a en masse, là, tu sais, je... c'est pas vraiment ce que je veux faire. Mais quoi que, le film divertit aussi, je pense. Mais...
Il y a quelques scènes, quelques moments divertissants. Est-ce que vous avez eu du mal à convaincre les personnes d'être filmées dans des moments quand même aussi intimes?
Ben oui et non. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de refus, mais les gens qui m'ont dit oui, je voulais pas avoir à les convaincre. Je voulais qu'ils soient... all-in qui a envie de le faire. Puis ça parle de la sincérité de leur démarche. Je pense que quand on est convaincu de quelque chose, qu'on le fait pour les bonnes raisons, qu'on y croit, on n'a pas de gêne à ce que quelqu'un vienne observer ça. Et donc, quand ils m'ont dit oui, moi, je suis allée tourner en leur disant tout le temps, s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes mal à l'aise, vous me le dites, puis on les mettra pas dans le film. Tu sais, j'avais une éthique assez serré, là, mais c'est pas arrivé. Ils étaient tous très généreux. Ils ont vu le film. Ils étaient à la première médiatique lundi. Ils endossent le film. Ils l'assument. Ils en parlent autour d'eux.
Il y a personne, là, qui s'est montré choqué, déçu, froissé ou...
Non. C'est ça qui est le fun. Mais je crois que... C'est ça. Je pense que c'est vraiment dû à la sincérité de leur approche et aussi... la sincérité de la mienne, dans le fond.
Oui.
Tu sais, oui, il y a un regard critique, mais il est sur notre société. Il est pas sur l'individu dans le film. Mm-hmm. Donc, eux, ils comprennent aussi que leur démarche, elle est beaucoup plus complexe que le 10 minutes où ils apparaissent dans le film. Ils savent que moi, je défends ça aussi. Tu sais, j'ai fait un film, là. Je les ai pas suivis dans leur vie. Donc, faut faire la part des choses entre l'œuvre et la réalité, mais l'œuvre amène un regard sur notre réalité, notre hyper-individualisme, notre obsession nous-mêmes. Puis je pense qu'il faut commencer à le voir pour être capable d'aller plus loin.
Et Annie Saint-Pierre, comment vous êtes arrivée à avoir accès aux coachs et à leurs patients, clients?
Je les appelais. D'abord, mon seul prérequis pour choisir les coachs, comme l'industrie n'est pas réglementée, je voulais pas que ce soit moi qui décide ça c'est des bons coachs puis ça c'est des mauvais coachs. Tu sais, je voulais pas me mettre dans cette situation-là. Je voulais que ça ressemble à l'industrie avec le large panorama de ce que cette industrie offre.
Mm-hmm.
Donc, le seul prérequis, c'était que eux se nomment coach. Et là, je fouillais sur Internet, de bouche à oreille. J'ai vraiment approché plusieurs personnes. Quand je les trouvais, je les appelais, on se parlait au téléphone et je leur disais, bon, ben, on va être là pour une session. Et c'est ça. Quand ils voulaient, ils m'ouvraient la porte, on allait les filmer. On était une petite équipe de trois. Et je pense que le coaching, c'est pour faire la démarche d'aller se faire coacher, il faut être prêt à se sentir vulnérable, à se sentir ouvert. Et donc, les gens, ils accueillaient notre regard sur leur démarche.
Est-ce qu'il y a des méthodes d'atteinte du plein potentiel et des coachs en croissance personnelle qui vous ont plus surprise que d'autres, qui vous ont peut-être même décontenancé durant le tournage?
J'essayais toujours de porter mon regard sur la relation. La relation entre le coach puis le coaché, c'est ça qui m'intéressait puis qui est constant dans toutes les sessions. Il se bâtit une confiance, une place où le coaché est vu. Au-delà de l'approche ou de la technique, je pense que c'est ça qui fait du bien, de se sentir vu et entendu par quelqu'un. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont surprenantes. Là, les gens parlent beaucoup du coaching BDSM, là, le coaching sadomasochiste.
Oui, le couple qui veut bâtir quelque chose de solide.
Oui. Oui. Oui, voilà. Et où la femme essaie la domination parce qu'elle cherche à changer, elle cherche à être un peu plus dominante dans son couple. On voit aussi peut-être les limites du changement rapide, là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut vraiment changer de notre personnalité profonde. Mais je pense que, tu sais, au-delà du dispositif là où ils font appel au BDSM puis ils sont habillés en cuir, le côté thérapie ou approche du changement et du coaching est vraiment intéressant et vraiment profond. Le rebirth avec un genre d'orgasme spontané à
les
la fin.
Les yeux révulsés, oui. Là. Oui, oui. Moi aussi.
Je me disais, je pensais pas que c'est ça qui allait arriver. Mais bon, j'étais dans l'accueil. Puis l'être humain est surprenant. Tu sais, c'est ça qui est le fun de l'observer. C'est qu'il est bizarre et touchant en même temps. Moi, je suis surprise, mais je fais du documentaire parce que je trouve que ça va toujours plus loin que la fiction. Quand je vais être surprise, je me refais un petit film documentaire d'observation, là, puis à chaque fois, je me dis, waouh, j'aurais jamais pu écrire ça toute seule dans ma chambre, là, tu sais. toujours agréable d'être surprise.
Et Annie Saint-Pierre, est-ce qu'il y en a un coach de vie qui proposait une manière de faire qui vous a inspiré assez pour vous dire, je vais m'inscrire, je vais l'essayer?
Oui, absolument. Moi, la rigolothérapie, ça me plaît.
Ah oui? Ça arrive dans une église à gorge déployée.
Oui. Et c'est drôle. L'église, en fait, le lieu, ça, moi, je fais de l'essai documentaire. Hein. Donc, pour moi, d'abord et avant tout, c'est du cinéma. Donc, si les sessions sont pas du tout stagées, par contre, les lieux, il y en a sur lesquels je suis intervenue. L'église, c'est moi qui voulais qu'ils fassent cela parce que pour moi, il y avait une symbolique dans le fait qu'on s'est rassemblés longtemps en communauté pour croire en Dieu. Et maintenant, on est seul ou avec des coachs pour croire en soi.
Oui, il y a un symbole là.
Oui, il y a beaucoup de symbolisme. Je joue avec la perception parce que c'est aussi une dimension du coaching. Il y a tout ça dans le film. Mais donc, la rigolothérapie, il y a aussi la coach de la chanteuse d'opéra, de l'Opéra de Montréal, Rose Nagar.
Oui, quelle belle
pour
voix.
Moi, Catherine, oui. Et Catherine Pinard, sa coach, elle est tout à fait fascinante et inspirante. Elle utilise la philo beaucoup aussi. Elle a une façon de coacher qui est très libératrice. J'irai la voir.
Bon, alors il y en a au moins deux. Il y a aussi, oui. Moi j'aime bien aimer aussi la scène là, avec les chevaux.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Mais c'est ça, le film a été construit pour que tout le monde trouve son compte au moins dans une scène. Tu sais, qu'on s'identifie au moins à un coaching, puis qu'on puisse se dire, ça m'inspire, tu sais, ça change d'une personne à l'autre, mais je pense que toute personne du public qui va voir le film aura à un moment un petit éveil, là, comme il appelle.
Et Annie Saint-Pierre, est-ce que, selon vous, la recherche du plein potentiel est saine?
Je pense qu'il faut se donner un petit break là-dessus. Je pense que c'est bien de vouloir avoir une conscience de soi, de se connaître, mais il y a un moment aussi où il faut se tourner vers l'autre, où il faut être dans le collectif davantage que dans la quête individuelle. Puis il faut, plutôt que de chercher le positif en tout, il faut pouvoir avoir des émotions négatives aussi qui vont nous amener à une certaine révolte. La société, en ce moment, notre monde, j'ai pas besoin de le dire, là, il va pas bien. Et il faut être capable de ressentir de la colère pour se lever ensemble puis dire non, ça, on n'accepte pas ça, ça, on se mobilise contre ça, plutôt que de juste vouloir être bien chacun dans notre petite maison.
Oui, et vos parents, vous disiez en début d'entrevue qu'ils étaient des amateurs de croissance personnelle. Est-ce qu'ils ont vu votre film?
Oui. Mon père ne l'a pas vu encore. Ça s'en vient quand je vais aller en région. Je viens du bas du fleuve, là, donc j'amènerai le film chez moi. Mais ma mère l'a vu, elle l'a vu plusieurs fois, elle l'aime, elle trouve que c'est un film qui laisse les gens se faire leur propre opinion. Elle trouve que c'est nuancé, qu'on n'y accuse personne, mais que ça nous pousse à réfléchir. Mais c'est une mère. Si elle l'aime pas, est-ce qu'elle va vraiment me le dire? Là? Je
pense. Bien, habituellement, les mères sont assez... On peut lire entre les lignes, là. D'après le ton de la voix, d'après les mots qu'elles utilisent. Alors, ben, je pense qu'elle a raison parce que c'est un film réussi. Et peut-être une question personnelle. J'en ai déjà posé des questions personnelles pendant cette entrevue, mais une petite dernière. Là. Quelle est la chose la plus étonnante, la plus folle que vous ayez faite pour vous sentir plus powerful, là, en référence à la scène d'ouverture qui se passe dans l'eau froide?
Bien... Je suis un peu plate par rapport à ça, je dois dire. J'ai pas fait beaucoup de thérapie avec des surprenantes ou avec de l'excentricité, mais tu sais, pour y aller dans le personnel, tu sais, j'ai tellement pris de ce que les gens m'offraient que faut maintenant que je me révèle aussi. Mais moi, je suis plutôt thérapie classique. Là. J'en ai fait de la thérapie, puis je trouve que c'est toujours très motivant, éclairant. Pour quelqu'un qui écrit aussi, c'est le fun de connaître l'être humain, tu sais, d'aller profondément en soi. Mais je suis un peu plate, j'ai rien à révéler, là. Pas de saut en bungee où j'aurais crié ma plus grande peur. rien d'extrême, là. Un peu de yoga, un peu de thérapie, beaucoup d'amis, par contre.
Ah, ben c'est merveilleux. Étape par étape, oui. Mais pas nécessairement dans la platitude, là. Il faut pas quand même dire que vous êtes plate. Mais votre film est loin d'être plate. Et,
oui, je pense que c'est dans la création et dans l'art que je trouve des histoires pour trouver du sens à mon humanité. C'est ma propre thérapie.
Mais ça m'a fait plaisir de vous reparler parce que je me souviens d'avoir fait une entrevue avec vous à propos de votre court-métrage « Les grandes claques » qui a été présenté en première à Sundance, qui a été aussi nommé dans la courte liste des Oscars. Un excellent film qui mettait en vedette l'excellent acteur, comment il s'appelle, Steve Plant.
La Plante,
c'est ça. Alors, bien là, c'est autre chose et j'invite les gens découvrir le plein potentiel, le plus récent documentaire, le plus récent film de la réalisatrice Annie Saint-Pierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci Hélène, c'était un plaisir.
Bye bye.
Bye bye.
Laurent Voulzy, sa chanson « Belle île en mer, Marie Galante ».
La Semaine québécoise des personnes handicapées, l'abandon derrière les slogans, c'est une lettre d'un collectif de signataires qui a été publiée vendredi dernier. Du 1er juin au 7 juin se tiendra la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le slogan « Ensemble, multiplions les gestes pour mettre en valeur leur potentiel ». Cette campagne lancée par le gouvernement prétend souligner l'importance d'agir pour améliorer la participation sociale des personnes en situation de handicap. Cette année, nous n'avons pas le cœur à participer à cette promotion. Nous avons la ferme conviction que toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions, ont une place à part entière dans la société et qu'il importe de maximiser nos efforts pour mieux sensibiliser la population aux réalités des personnes en situation de handicap. Toutefois, nous nous indignons face à autant de recul sur le plan des droits humains, puisque derrière cette semaine bien spéciale se cache une triste réalité, celle du gouvernement refusant d'investir adéquatement dans des services publics en quantité et en qualité suffisante pour assurer le bien-être des populations vivant avec un handicap. Alors que les personnes en situation de handicap et leur entourage revendiquent de meilleures conditions de vie, notre gouvernement a dernièrement procédé à une série de mesures qui discriminent davantage une partie importante de cette population, déjà fragilisée par un système brisé. Depuis plusieurs mois, nous constatons des coupes ou des interruptions dans plusieurs programmes essentiels au déploiement de tout leur potentiel, tels que les chèques emploi-service, le soutien à domicile, le programme d'adaptation de domicile, les services d'employabilité, la remise en cause du principe de compensation équitable des incapacités, etc. Comment parler de la mise en valeur du potentiel quand les services sont réduits drastiquement et quand l'accès aux soins, au soutien, à l'éducation, à l'emploi et au logement devient un parcours du combattant? Le 27 juin prochain, le Québec soulignera les 50 ans de la Charte des droits et libertés de la personne, une charte qui affirme haut et fort que toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence. Il y a quelques jours à peine, des propos ignobles ont été tenus sur les ondes d'une radio québécoise appelant à l'euthanasie des personnes lourdement handicapées. Face à cela, aucun mot, aucun geste fort du gouvernement, sauf un communiqué discret de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce n'est pas à la population de porter seule le fardeau de l'inclusion. Ce n'est pas aux familles d'assurer des services essentiels. Ce n'est pas aux organismes communautaires déjà sous-financés de pallier les défaillances d'un système déshumanisé. Cette année, nous refusons de participer à une mise en scène qui camoufle l'abandon. Nous voulons plus qu'une semaine, nous exigeons une société juste, inclusive et cohérente avec les principes de la Charte des droits et libertés de la personne, signée Amélie Durand-Lot, Lily Plourde, Isabelle Tremblay, Michel Godet, qui travaillent tous et toutes pour un organisme lié à ou handicapé. Ici Hélène Denis, à demain.